Comte de Lautréamont, Les Chants de Maldoror, chant sixième. Vous, dont le calme enviable ne peut pas faire plus que d'embellir le faciès, ne croyez pas qu'il s'agisse encore de pousser dans des strophes de 14 ou 15 lignes, ainsi qu'un élève de quatrième, des exclamations qui passeront pour inopportunes et des gloussements sonores de poules cochins chinoises, aussi grotesques qu'on serait capable de l'imaginer, pour peu qu'on s'en donnât la peine. Mais il est préférable de prouver par des faits les propositions que l'on avance. Prétendriez-vous donc, parce que j'aurais insulté, comme en me jouant l'homme, le créateur et moi-même, dans mes inexplicables hyperboles, sa mission fut complète? Non! La partie la plus importante de mon travail n'en subsiste pas moins comme la tâche qui reste à faire. Désormais, les ficelles du roman remueront les trois personnages nommés plus haut. Il leur sera ainsi communiqué une puissance moins abstraite. La vitalité se répandra magnifiquement dans le torrent de leur appareil circulatoire. Et vous verrez comme vous serez étonné vous-même de rencontrer, là où d'abord vous n'avez pas cru voir que des entités vagues appartenant au domaine de la spéculation pure, les magasins de la rue Vivienne étalent leurs richesses aux yeux émerveillés. Éclairés par de nombreux becs de gaz, les coffres d'acajou et les montures en or répandent à travers les vitrines des gerbes de lumière éblouissantes. 8 heures ont sonné à l'horloge de la bourse. Ce n'est pas tard. À peine le dernier coup de marteau s'est-il fait entendre que la rue, dont le nom a été cité, se met à trembler et secoue ses fondements depuis la place Royale jusqu'au boulevard Montmartre. Les promeneurs hâtent le pas et se retirent pensifs dans leur maison. Une femme s'évanouit et tombe sur l'asphalte. Personne ne la relève. Il tarde à chacun de s'éloigner de ce parage. Les volets se referment avec impétuosité et les habitants s'enfoncent dans leurs couvertures. On dirait que la peste asiatique a révélé sa présence. Ainsi, pendant que la plus grande partie de la ville se prépare à nager dans les réjouissances des fêtes nocturnes, la rue Vivienne se trouve sensiblement et subitement glacée par une sorte de pétrification. Comme un cœur qui cesse d'aimer, elle a vu sa vie éteinte. Mais bientôt, la nouvelle du phénomène se répand dans les autres couches de la population et un silence morne plane sur l'auguste capitale. Où sont-ils passés, les becs de gaz? Que sont-elles devenues, les vendeuses d'amour? Rien. La solitude et l'obscurité. Une chouette volant dans une direction rectiligne et dont la patte est cassée, passe au-dessus de la Madeleine et prend son essor vers la barrière du trône en s'écriant « Un malheur se prépare !» Or, dans cet endroit que ma plume, ce véritable ami qui me sert de compère, vient de rendre mystérieux, si vous regardez du côté par où la rue Colbert s'engage dans la rue Vivienne, vous verrez, à l'angle formé par le croisement de ces deux voies, un personnage montrait sa silhouette et dirigeait sa marche légère vers les boulevards. Mais si l'on s'approche davantage, de manière à ne pas amener sur soi-même l'attention de ce passant, on s'aperçoit avec un agréable étonnement qu'il est jeune. De loin, on l'aurait pris en effet pour un homme mûr. La somme des jours ne compte plus quand il s'agit d'apprécier la capacité intellectuelle d'une figure sérieuse. Je me connais à lire l'âge dans les lignes physionomiques du front. Il a 16 ans et 4 mois. Il est beau comme l'intractabilité des serres des oiseaux rapaces, ou encore comme l'incertitude des mouvements musculaires dans les plaies et les pattes molles de la région cervicale postérieure, ou plutôt comme ce piège à rat perpétuel, toujours retendu par l'animal pris, qui peut prendre seul des rongeurs indéfiniment et fonctionner même caché sous la paille, et surtout comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Mervyn, ce fils de la blonde Angleterre, vient de prendre chez son professeur une leçon d'escrime. Et enveloppé dans son tartan écossais, il retourne chez ses parents. C'est 8h30 et il espère arriver chez lui à 9h. De sa part, c'est une grande présomption que de feindre d'être certain de connaître l'avenir. Quel obstacle imprévu peut-il l'embarrasser dans sa route? Et cette circonstance serait-elle si peu fréquente qu'il dit prendre sur lui de la considérer comme une exception? Que ne considère-t-il plutôt comme un fait anormal la possibilité qu'il a eue jusqu'ici de se sentir dépourvu d'inquiétude et pour ainsi dire heureux? De quel droit en effet prétendrait-il gagner indemne de sa demeure lorsque quelqu'un le guette et le suit par derrière comme sa future proie? Ce serait bien peu connaître sa profession d'écrivain à sensation que de ne pas au moins mettre en avant les restrictives interrogations après lesquelles arrive immédiatement la phrase que je suis sur le point de terminer. Vous avez reconnu le héros imaginaire qui, depuis un long temps, brise par la pression de son individualité ma malheureuse intelligence. Tantôt, Maldoror se rapproche de Mervyn pour graver dans sa mémoire les traits de cet adolescent. Tantôt, le corps rejeté en arrière, il recule sur lui-même comme le boomerang d'Australie dans la deuxième période de son trajet, ou plutôt comme une machine infernale. Indécis sur ce qu'il doit faire, mais sa conscience n'éprouve aucun symptôme d'une émotion la plus embryologénique comme Aftor, vous le supposeriez. Non, non, je le vis s'éloigner un instant dans une direction opposée. Était-il accablé par le remords? Mais il revint sur ses pas avec un nouvel acharnement. Mervyn ne sait pas pourquoi ses artères temporales battent avec force et il presse le pas, obsédé par une frayeur dont lui et vous cherchent vainement la cause. Il faut lui tenir compte de son application à découvrir l'énigme. Pourquoi ne se retourne-t-il pas? Il comprendrait tout. Songe-t-on jamais aux moyens les plus simples de faire cesser un état alarmant? Quand un rôdeur de barrière traverse un faubourg de la banlieue, un saladier de vin blanc dans le gosier et la blouse en lambeaux, si dans le coin d'une borne il aperçoit un vieux chat musculeux, contemporain des révolutions auxquelles ont assisté nos pères, contemplant mélancoliquement les rayons de la lune qui s'abattent sur la plaine endormie, il s'avance tortueusement dans une ligne courbe et fait un signe à un chien cagneux qui se précipite. Le noble animal de la race féline attend son adversaire avec courage et dispute chèrement sa vie. Demain, quelque chiffonnier achètera une peau électrisable. Mais que ne fuyait-il donc? C'était si facile. Mais dans le cas qui nous préoccupe actuellement, Mervyn complique encore le danger par sa propre ignorance. Il a comme quelques lueurs excessivement rares, il est vrai, dont je ne m'arrêterai pas à démontrer le vague qui les recouvre. Cependant, il lui est impossible de deviner la réalité. Il n'est pas prophète, je ne dis pas le contraire, et il ne se reconnaît pas la faculté de l'être. Arrivé sur la grande artère, il tourne à droite et traverse le boulevard Poissonnière, le boulevard Bonne Nouvelle. À ce point de son chemin, il s'avance dans la rue du Faubourg Saint-Denis, laisse derrière lui l'embarcadère du chemin de fer de Strasbourg et s'arrête devant un portail élevé avant d'avoir atteint la superposition perpendiculaire de la rue Lafayette. Bon, puisque vous me conseillez de terminer en cet endroit la première strophe, je veux bien, pour cette fois, obtempérer à votre désir. Savez-vous que lorsque je songe à l'anneau de fer caché sous la pierre par la main d'un maniaque, un invincible frisson me passe par les cheveux? Il tire le bouton de cuivre et le portail de l'hôtel moderne tourne sur ses gonds. Il arpente la cour, parsemée de sable fin, et franchit les 8 degrés du perron. Les deux statues, placées à droite et à gauche comme les gardiennes de l'aristocratique villa, ne lui barrent pas le passage. Celui qui a tout renié, père, mère, providence, amour, idéal, afin de ne plus penser qu'à lui seul, s'est bien gardé de ne pas suivre les pas qui précédaient. Il l'a vu entrer dans un spacieux salon du rez-de-chaussée aux boiseries de cornaline. Le fils de famille se jette sur un sofa et l'émotion l'empêche de parler. Sa mère, à la robe longue et traînante, s'empresse autour de lui et l'entoure de ses bras. Ses frères, moins âgés que lui, se groupent autour du meuble, chargés d'un fardeau. Ils ne connaissent pas la vie d'une manière suffisante pour se faire une idée nette de la scène qui se passe. Enfin, le père élève sa canne et abaisse sur les assistants un regard plein d'autorité. Appuyant le poignet sur les bras du fauteuil, il s'éloigne de son siège ordinaire et s'avance avec inquiétude, quoique affaibli par les ans, vers le corps immobile de son premier-né. Il parle dans une langue étrangère et chacun l'écoute dans un recueillement respectueux. « Qui a mis le garçon dans cet état ?»« La Tamise brumeuse charriera encore une quantité notable de limon avant que mes forces soient complètement épuisées. » Des lois préservatrices n'ont pas l'air d'exister dans cette contrée inhospitalière. Il éprouverait la vigueur de mon bras si je connaissais le coupable. Quoique j'ai pris ma retraite dans l'éloignement des combats maritimes, mon épée de Commodore, suspendue à la muraille, n'est pas encore rouillée. D'ailleurs, il est facile à repasser le fil. Mervyn, tranquillise-toi, je donnerai des ordres à mes domestiques afin de rencontrer la trace de celui que, désormais, je chercherai pour le faire périr de ma propre main. Femme, ôte-toi de là et va t'accroupir dans un coin. Tes yeux m'attendrissent et tu ferais bien de refermer le conduit de tes glandes lacrymales. Mon fils, je t'en supplie, réveille tes sens et reconnais ta famille. C'est ton père qui te parle. La mère se tient à l'écart, et pour obéir aux ordres de son maître, elle a pris un livre entre ses mains et s'efforce de demeurer tranquille, en présence du danger que court celui que sa matrice enfanta. « Enfant, allez vous amuser dans le parc, et prenez garde, en admirant la natation des cygnes, de ne pas tomber dans la pièce d'eau. » Les frères, les mains pendantes, restent muets. Tous, la toque surmontée d'une plume arrachée à l'aile de l'engoulevent de la Caroline, avec le pantalon de velours s'arrêtant aux genoux et les bas de soie rouge, se prennent par la main et se retirent du salon, ayant soin de ne presser le parquet d'ébène que de la pointe des pieds. Je suis certain qu'ils ne s'amuseront pas et qu'ils se promèneront avec gravité dans les allées de platanes. Leur intelligence est précoce, tant mieux pour eux. Soins inutiles, je te berce dans mes bras et tu es insensible à mes supplications. Mais voudrais-tu relever la tête? J'embrasserai tes genoux s'il le faut, mais non. Elle retombe inerte. Mon doux maître, si tu le permets à ton esclave, je vais chercher dans mon appartement un flacon rempli d'essence de térébenthine, et dont je me sers habituellement quand la migraine envahit mes tempes après être revenu du théâtre ou lorsque la lecture d'une narration émouvante consignée dans les annales britanniques de la chevaleresque histoire de nos ancêtres jette ma pensée rêveuse dans les tourbières de l'assoupissement. Femme, je ne t'avais pas donné la parole et tu n'avais pas le droit de la prendre. Depuis notre légitime union, aucun nuage n'est venu s'interposer entre nous. Je suis content de toi, je n'ai jamais eu de reproche à te faire, et réciproquement. Va chercher dans ton appartement un flacon rempli d'essence de térébenthine. Je sais qu'il s'en trouve un dans les tiroirs de la commode, et tu ne viendras pas me l'apprendre. Allez, dépêche-toi de franchir les degrés de l'escalier en spirale, et reviens me trouver avec un visage content. Mais la sensible londonienne est à peine arrivée aux premières marches. Oh, elle ne court pas aussi promptement qu'une personne des classes inférieures, que déjà une de ces demoiselles d'atout redescend du premier étage, les joues empourprées de sueur, avec le flacon qui peut-être contient la liqueur de vie dans ses parois de cristal. La demoiselle s'inclina avec grâce et présentant son offre, et la mère avec sa démarche royale s'est avancée vers les franges qui bordent le sofa, seul objet qui préoccupe sa tendresse. Le commodore, avec un geste fier mais bienveillant, accepte le flacon des mains de son épouse. Un foulard d'Inde y est trempé et l'on entoure la tête de Mervyn avec les méandres orbiculaires de la soie. Il respire des sels. Il remue un bras. La circulation se ranime et l'on entend les cris joyeux d'un cacatoès des Philippines perché sur l'embrasure de la fenêtre. Qui va là? Ne m'arrêtez point, où suis-je? Est-ce une tombe qui supporte mes membres alourdis? Les planches m'en paraissent douces. Le médaillon qui contient le portrait de ma mère est-il encore attaché à mon cou? Arrière, malfaiteur, à la tête échevelée. Il n'a pas pu m'atteindre, j'ai laissé entre ses doigts un pan de mon pourpoint. Détachez les chaînes des bulldogs. Car cette nuit, un voleur reconnaissable peut s'introduire chez nous avec effraction, tandis que nous serons plongés dans le sommeil. Mon père et ma mère, je vous reconnais et je vous remercie de vos soins. Appelez mes petits frères. C'est pour eux que j'avais acheté les pralines et je veux les embrasser. À ces mots, il tombe dans un profond état léthargique et le médecin qu'on a mandé en toute hâte se frotte les mains et s'écrie. « Oh, la crise est passée, tout va bien. Demain, votre fils se réveillera dispo. Tous, allez-vous-en dans vos couches respectives. Je l'ordonne afin que je reste seul à côté du malade jusqu'à l'apparition de l'aurore et du chant du rossignol. » Mal d'aurore, caché derrière la porte, n'a perdu aucune parole. Maintenant, il connaît le caractère des habitants de l'hôtel et agira en conséquence. Il sait où demeure Mervyn et ne désire pas en savoir davantage. Il a inscrit dans un calepin le nom de la rue et le numéro du bâtiment. C'est le principal. Il est sûr de ne pas les oublier. Il s'avance comme une hyène sans être vu et longe les côtés de la cour. Il escalade la grille avec agilité et s'embarrasse un instant dans les pointes de fer. D'un bond, il est sur la chaussée. Il s'éloigne à pas de loup. « Il me prenait pour un malfaiteur » s'écrie-t-il. « Mais c'est un imbécile. Faudrait trouver un homme exempt de l'accusation que le malade a portée contre moi. Je n'ai pas enlevé un pan de son pourpoint, comme il l'a dit. Simple hallucination hypnagogique, causée par la frayeur. » Mon intention n'était pas aujourd'hui de m'emparer de lui, car j'ai d'autres projets ultérieurs sur cet adolescent timide. Dirigez-vous du côté où se trouve là le lac des Cygnes, et je vous dirai plus tard pourquoi il s'en trouve un de complètement noir parmi la troupe, et dont le corps, surportant une enclume, surmontée du cadavre en putréfaction d'un crabe tourteau, inspire à bon droit de la méfiance à ses autres aquatiques camarades. Mervyn est dans sa chambre. Il a reçu une missive. Qui donc lui écrit une lettre? Son trouble l'a empêché de remercier l'agent postal. L'enveloppe a les bordures noires et les mots sont tracés d'une écriture hâtive. Ira-t-il porter cette lettre à son père? Et si le signataire le lui défend expressément? Plein d'angoisse, il ouvre sa fenêtre pour respirer les senteurs de l'atmosphère. Les rayons du soleil reflètent leurs prismatiques irradiations sur les glaces de Venise et les rideaux de Damas. Il jette la missive de côté parmi les livres à tranches dorées et les albums à couverture de nacre, parsemés sur le cuir repoussé qui recouvre la surface de son pupitre d'écolier. Il ouvre son piano et fait courir ses doigts effilés sur les touches d'ivoire. Les cordes de laiton ne résonnèrent point. Cet avertissement indirect l'engage à reprendre le papier vélin. Mais celui-ci recula comme s'il avait été différencé de l'hésitation du destinataire. Prise à ce piège, la curiosité de Mervyn s'accroît, et il ouvre le morceau de chiffon préparé. Il avait vu jusqu'à ce moment que sa propre écriture. « Jeune homme, je m'intéresse à vous. Je veux faire votre bonheur. Je vous prendrai pour compagnon et nous accomplirons de longues pérégrinations dans les îles de l'Océanie. Mervyn, tu sais que je t'aime et je n'ai pas besoin de te le prouver. Tu m'accorderas ton amitié, j'en suis persuadé. Quand tu me connaîtras davantage, tu ne te repentiras pas de ta confiance que tu m'auras témoigné. Je te préserverai des périls que courra ton inexpérience. Je serai pour toi un frère, et les bons conseils ne te manqueront pas. Pour de plus longues explications, trouve-toi après-demain matin à 5 heures sur le pont du Carrousel. Si je ne suis pas arrivé, attends-moi, mais j'espère être rendu à l'heure juste. Toi, fais de même. » Un Anglais n'abandonnera pas facilement l'occasion de voir clair dans ses affaires. « Allez, jeune homme, je te salue et à bientôt. Ne montre cette lettre à personne. » »« 3 étoiles au lieu d'une signature, » s'écrie Mervyn. « Et une tache de sang au bas de la page. » Des larmes abondantes coulent sur les curieuses phrases que ses yeux ont dévorées et qui ouvrent à son esprit le champ illimité des horizons incertains et nouveaux. Il lui semble, ce n'est que depuis la lecture qu'il vient de terminer, que son père est un peu sévère et sa mère trop majestueuse. Il possède des raisons qui ne sont pas parvenues à ma connaissance et que, par conséquent, je ne pourrais pas vous transmettre pour insinuer que ses frères ne lui conviennent pas non plus. Il cache cette lettre dans sa poitrine. Ses professeurs ont observé que ce jour-là, il n'a pas ressemblé à lui-même. Ses yeux se sont assombris démesurément et le voile de la réflexion excessive s'est abaissé sur la région périorbitaire. Chaque professeur a rougi de crainte de ne pas se trouver à la hauteur intellectuelle de son élève. Et cependant, celui-ci, pour la première fois, a négligé ses devoirs et n'a pas travaillé. Le soir, la famille s'est réunie dans la salle à manger, dévorée de portraits antiques. Mervyn admire les plats chargés de viande succulente et les fruits odoriférants, mais il ne mange pas. Les polychromes ruissellements des vins du Rhin et le rubis mousseux du champagne s'enchassent dans les écuelles et hautes coupes de pierre de Bohême et laissent même sa vue indifférente. Il appuie son coude sur la table et reste absorbé dans ses pensées comme un somnambule. Le commodore, au visage bourrané et boucané par l'écume de la mer, se penche à l'oreille de son épouse. L'aîné a changé de caractère depuis le jour de la crise. Il était déjà que trop porté aux idées absurdes. Aujourd'hui, il rêvasse encore plus de coutume. Mais enfin, j'étais pas comme cela, moi, lorsque j'avais son âge. Fais semblant de t'apercevoir de rien. C'est ici que remède efficace, matériel ou moral, trouverait aisément son emploi. Mervyn, toi qui goûtes la lecture des livres de voyage et d'histoire naturelle, je vais te lire un récit qui ne te déplaira pas. Toi, m'écoute avec attention, chacun y trouvera son profit, moi le premier. Et vous autres, enfants, apprenez, par l'attention que vous saurez prêter à mes paroles, à perfectionner le dessin de votre style et à vous rendre compte des moindres intentions d'un auteur. Comme si cette nichée d'adorable moutard aurait pu comprendre ce que c'était que la rhétorique. Il dit, et sur un geste de sa main, un des frères se dirige vers la bibliothèque paternelle et en revient avec un volume sous le bras. Pendant ce temps, le couvert et l'argenterie sont enlevés et le père prend le livre. À ce nom électrisant de voyage, Mervyn a levé la tête et s'est efforcé de mettre un terme à ses méditations hors de propos. Le livre est ouvert vers le milieu et la voix métallique du commodore prouve qu'il est resté capable, comme dans les jours de sa glorieuse jeunesse, de commander à la fureur des hommes et des tempêtes. Bien avant la fin de cette lecture, Mervyn est retombé sur son coude, dans l'impossibilité de suivre plus longtemps le raisonné développement des phrases passées de la filière et la saponification des obligatoires métaphores. Le père s'écrie « Bon, c'est pas cela qui t'intéresse, bien lisons autre chose. Lis, femme, tu seras plus heureuse que moi pour chasser le chagrin des jours de notre fils. » La mère ne conserve plus d'espoir. Cependant, elle s'est emparée d'un autre livre et le timbre de sa voix, de soprano, retentit mélodieusement aux oreilles du produit de sa conception. Mais, après quelques paroles, le découragement l'envahit et elle cesse d'elle-même l'interprétation de l'œuvre littéraire. Le premier-né s'écrie « Je vais me coucher !» Il se retire, les yeux baissés avec une fixité froide et sans rien ajouter. Le chien se met à pousser un lugubre aboiement, car il ne trouve pas cette conduite naturelle, et le vent du dehors, s'engouffrant inégalement dans la fissure longitudinale de la fenêtre, fait vaciller la flamme rabattue par deux coupoles de cristal rosé de la lampe de bronze. La mère appuie ses mains sur son front et le père relève les yeux vers le ciel. Les enfants jettent des regards effarés sur le vieux marin. Mervyn ferme la porte de sa chambre à double tour et sa main court rapidement sur le papier. « J'ai reçu votre lettre à midi et vous me pardonnerez si je vous ai fait attendre la réponse. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître personnellement et je ne savais pas si je vais vous écrire. » Mais comme l'impolitesse ne loge pas dans notre maison, j'ai résolu de prendre la plume et de vous remercier chaleureusement de l'intérêt que vous prenez pour un inconnu. Dieu me garde de ne pas montrer de la reconnaissance pour la sympathie dont vous me comblez. Je connais mes imperfections et je ne m'en montre pas plus fier. Mais s'il est convenable d'accepter l'amitié d'une personne âgée, il est aussi de lui faire comprendre que nos caractères ne sont pas les mêmes. En effet, vous paraissez être plus âgé que moi, puisque vous m'appelez jeune homme, et cependant je conserve des doutes sur votre âge véritable. Car comment concilier la froideur de vos syllogismes avec la passion qui s'en dégage? Il est certain que je n'abandonnerai pas le lieu qui m'a vu naître pour vous accompagner dans des contrées lointaines. Ce qui ne serait possible qu'à la condition de demander auparavant aux auteurs de mes jours une permission impatiemment attendue. Mais comme vous m'avez enjoint de garder le secret, dans le sens cubique du terme, sur cette affaire spirituellement ténébreuse, je m'empresserai d'obéir à votre sagesse incontestable. À ce qu'il paraît, elle n'affronterait pas avec plaisir la clarté de la lumière. Puisque vous paraissez souhaiter que j'ai de la confiance en votre propre personne, vœu qui n'est pas déplacé, je me plais à le reconnaître, ayez la bonté de vous prier de témoigner à mon égard une confiance analogue et de ne pas avoir la prétention de croire que je serai tellement éloigné de votre avis qu'après demain matin, à l'heure indiquée, je ne serai pas exact au rendez-vous. Je franchirai le mur de clôture du parc car la grille sera fermée et personne ne sera témoin de mon départ. À parler avec franchise, que ne ferais-je pas pour vous, dont l'inexplicable attachement a su promptement se révéler à mes yeux éblouis, surtout étonnés d'une telle preuve de bonté à laquelle je me suis assuré que je ne serais pas attendu. Puisque je ne vous connaissais pas, mais maintenant je vous connais. N'oubliez pas la promesse que vous m'avez faite de vous promener sur le pont du Carrousel. Dans le cas que j'y passe, j'ai une certitude à nul autre pareille de vous y rencontrer et de vous toucher la main, pourvu que cette innocente manifestation d'un adolescent, qui hier encore s'inclinait devant l'autel de la pudeur, ne doive pas vous offenser par sa respectueuse familiarité. Or, la familiarité n'est-elle pas avouable dans le cas d'une forte et ardente intimité, lorsque la perdition est sérieuse et convaincue? Et quel mal y aurait-il après tout, je vous le demande à vous-même, à ce que je vous dise adieu tout en passant, lorsque, après-demain, qu'il pleuve ou non, 5 heures auront sonné. Vous apprécierez vous-même, gentleman, le tact avec lequel j'ai conçu ma lettre, car je ne me permets pas, dans une feuille volante, apte à s'égarer, de vous en dire davantage. Votre adresse au bas de la page est un rébus. Il m'a fallu près d'un quart d'heure pour la déchiffrer. Je crois que vous avez bien fait d'en tracer les mots d'une manière microscopique. Je me dispense de signer, en cela je vous imite. Nous vivons dans un temps trop excentrique pour s'étonner un instant de ce qui pourrait arriver. Je serais curieux de savoir comment vous avez appris l'endroit où demeure mon immobilité glaciale, entourée d'une longue rangée de salles désertes, immonde charnier de mes heures d'ennui. Comment dire cela? Quand je pense à vous, ma poitrine s'agite, retentissante comme l'écroulement d'un empire en décadence. Car l'ombre de votre amour accuse un sourire qui peut-être n'existe pas. Elle est si vague et remue ses écailles si tortueusement. Entre vos mains, j'abandonne mes sentiments impétueux. Table de marbre toute neuve et vierge encore d'un contact mortel. Prenons patience jusqu'aux premières lueurs du crépuscule matinal, et dans l'attente du moment qui me jettera dans l'entrelacement hideux de vos bras pestiférés, je m'incline humblement à vos genoux, que je presse. Après avoir écrit cette lettre coupable, Mervyn la porta à la poste et revient se mettre au lit. On ne comptait pas y trouver son ange gardien. La queue de poisson ne volera que pendant 3 jours, c'est vrai, mais, hélas, la poutre n'en sera pas moins brûlée. Et une balle cylindro-conique percera la peau du rhinocéros, malgré la fille de neige et le mendiant. C'est que le fou couronné aura dit la vérité sur la fidélité des 14 poignards. Je me suis aperçu que je n'avais qu'un œil au milieu du front. Ô miroir d'argent incrusté dans les panneaux des vestibules, combien de services ne m'avez-vous pas rendu par votre pouvoir réflecteur? Depuis le jour où un chat angora me rongea pendant 1 heure la bosse pariétale, comme un trépan qui perfore le crâne en s'élançant brusquement sur mon dos parce que j'avais fait bouillir ses petits dans une cuve remplie d'alcool, je n'ai pas cessé de lancer contre moi-même la flèche des tourments. Aujourd'hui, sous l'impression des blessures que mon corps a reçues dans diverses circonstances, soit par la fatalité de ma naissance, soit par le fait de ma propre faute, accablé par les conséquences de ma chute morale, quelques-unes ont été accomplies, qui prévoira les autres. Spectateur impassible des monstruosités acquises ou naturelles qui décorent les aponévroses et l'intellect de celui qui parle, je jette un long regard de satisfaction sur la dualité qui me compose. Et je me trouve beau. Beau comme le vice de conformation congénitale des organes sexuels de l'homme, consistant dans la brièveté relative du canal de l'urètre et la diminution de l'absence de sa paroi inférieure, de telle sorte que ce canal s'ouvre à une distance variable du gland et au-dessous du pénis. Ou encore, comme la caroncule charnue de forme conique, sillonnée par des rides transversales assez profondes, qui s'élèvent sur la base du bec supérieur du dindon. Ou plutôt, comme la vérité qui suit, le système des gammes, des modes et de leur enchaînement harmonique ne repose pas sur des lois naturelles invariables, mais il est au contraire la conséquence de principes esthétiques qui ont varié avec le développement progressif de l'humanité et qui varieront encore, et surtout comme une corvette cuirassée à tourelles. Oui, je maintiens l'exactitude de mon assertion. Je n'ai pas d'illusion présomptueuse, je m'en vante, je ne trouverai aucun profit dans le mensonge. Donc ce que j'ai dit, vous ne devez mettre aucune hésitation à le croire. Car pourquoi m'inspirerais-je à moi-même de l'horreur devant les témoignages élogieux qui partent de ma conscience? Je n'envie rien au Créateur, mais qu'il me laisse descendre le fleuve de ma destinée à travers une série croissante de crimes glorieux. Sinon, élevant à la hauteur de son front un regard irrité de tout obstacle, je lui ferai comprendre qu'il n'est pas le seul maître de l'univers, que plusieurs phénomènes qui relèvent directement d'une connaissance plus approfondie de la nature des choses déposent en faveur de l'opinion contraire et opposent un formel démenti à la viabilité de l'unité de la puissance. C'est que nous sommes deux à nous contempler les cils des paupières, vois-tu. Et tu sais que plus d'une fois a retenti dans ma bouche sans lèvres le clairon de la victoire. Adieu, guerrier illustre. Ton courage dans le malheur inspire de l'estime à ton ennemi le plus acharné. Mais Maldoror te retrouvera bientôt pour te disputer la proie qui s'appelle Mervyn. Ainsi sera réalisée la prophétie du coq quand il entrevoit l'avenir au fond du candélabre. Plus au ciel que le crabe tourteau rejoignât tant la caravane des pèlerins et leur apprenne en quelques mots la narration du chiffonnier de Clignancourt. Sur un banc du palais royal, du côté gauche et non loin de la pièce d'eau, un individu, débouchant dans la rue de Rivoli, est venu s'asseoir. Il a les cheveux en désordre et ses habits dévoilent l'action corrosive d'un dénuement prolongé. Il a creusé un trou dans le sol avec un morceau de bois pointu et a rempli de terre le creux de sa main. Il a porté cette nourriture à la bouche et l'a rejetée avec précipitation. Il s'est relevé et, appliquant sa tête contre le banc, il a dirigé ses jambes vers le haut. Mais comme cette situation funambulesque est en dehors des lois de la pesanteur qui régissent le centre de gravité, il est retombé lourdement sur la planche, les bras pendants, la casquette lui cachant la moitié de la figure et les jambes battant le gravier dans une situation d'équilibre instable, de moins en moins rassurante. Il reste longtemps dans cette position. Vers l'entrée mitoyenne du nord, à côté de la rotonde qui contient une salle de café, le bras de notre héros est appuyé contre la grille. Sa vue parcourt la superficie du rectangle de manière à ne laisser échapper aucune perspective. Ses yeux reviennent sur eux-mêmes après l'achèvement de l'investigation et il aperçoit au milieu du jardin un homme qui fait de la gymnastique titubante avec un banc sur lequel il s'efforce de s'affermir en accomplissant des miracles de force et d'adresse. Mais que peut la meilleure intention apporter au service d'une cause juste comme le dérèglement de l'aliénation mentale? Alors il s'est avancé vers le fou, l'a aidé avec bienveillance à replacer sa dignité dans une position normale, lui a tendu la main et s'est assis à côté de lui. Il remarque que la folie n'est qu'intermittente. L'accès a disparu, son interlocuteur répond logiquement à toutes les questions. Est-il nécessaire de rapporter le sens de ses paroles? Pourquoi rouvrir à une page quelconque avec un empressement blasphématoire l'infolio des misères humaines? Rien n'est d'un enseignement plus fécond. Quand même, je n'aurais aucun événement de vrai à vous faire entendre, j'inventerai des récits imaginaires pour les transvaser dans votre cerveau. Mais le malade ne l'est pas devenu pour son propre plaisir, et la sincérité de ses rapports s'allie à merveille avec la crédulité du lecteur. Mon père était un charpentier de la rue de la Verrerie. Que la mort des trois Marguerites retombe sur sa tête et que le bec du canari lui ronge éternellement l'axe du bulbe oculaire. Oui, il avait contracté l'habitude de s'enivrer, et dans ces moments-là, quand il revenait à la maison, après avoir couru les comptoirs des cabarets, sa fureur devenait presque incompréhensible et il frappait indistinctement les objets qui se présentaient à sa vue. Mais bientôt, devant les reproches de ses amis, Il se corrigea complètement et devint d'une humeur taciturne. Personne ne pouvait l'approcher, pas même notre mère. Il conservait un secret ressentiment contre l'idée du devoir qui l'empêchait de se confier à ses guises. J'avais acheté un serin pour mes trois sœurs. C'était pour mes trois sœurs que j'avais acheté un serin. Elle l'avait enfermé dans une cage au-dessus de la porte, et les passants s'arrêtaient chaque fois pour écouter les chants de l'oiseau, admirer sa grâce fugitive et étudier ses formes savantes. Plus d'une fois, mon père avait donné l'ordre de faire disparaître la cage et son contenu, car il se figurait que le serin se moquait de sa personne en lui jetant le bouquet des cavatines aériennes, son talent de vocaliste. Il alla détacher la cage du clou et glissa de la chaise, aveuglé par la colère. Une légère excoriation au genou fut le triomphe de son entreprise. Après être resté quelques secondes à presser la partie gonflée avec un copeau, il rabaissa son pantalon, les sourcils froncés, prit mieux ses précautions, mit la cage sous son bras et se dirigea vers le fond de son atelier. Et là, malgré les cris et les supplications de sa famille, nous tenions beaucoup à cet oiseau qui était pour nous comme le génie de la maison. Il écrasa de ses talons ferrés la boîte d'osier. Pendant qu'une varlope tournoyante autour de sa tête tenait à distance les assistants. Le hasard fit que le serin ne mourut pas sur le coup. Ce flocon de plumes vivait encore malgré la maculation sanguine. Le charpentier s'éloigna et referma la porte avec bruit. Ma mère et moi, nous nous efforçâmes de retenir la vie de l'oiseau, prêt à s'échapper. Il atteignait à sa fin et le mouvement de ses ailes ne s'offrait plus à la vue que comme le miroir de la suprême convulsion d'agonie. Pendant ce temps, les trois Marguerites, quand elles aperçurent que tout espoir allait être perdu, se prirent par la main d'un commun accord, et la chaîne vivante alla s'accroupir, après avoir repoussé à quelques pas un baril de graisse derrière l'escalier, à côté du chenil de notre chienne. Ma mère ne discontinuait pas sa tâche et tenait le serin entre ses doigts pour le réchauffer de son haleine. Moi, je courais éperdu par toutes les chambres, me cognant aux meubles et aux instruments. De temps à autre, une de mes sœurs montrait sa tête devant le bas de l'escalier pour se renseigner sur le sort du malheureux oiseau et la retirait avec tristesse. La chienne était sortie de son chenil et comme si elle avait compris l'étendue de notre perte, elle léchait avec la langue de la stérile consolation la robe des trois Marguerites. Le serin n'avait plus que quelques instants à vivre. Une de mes sœurs, à son tour, oui, c'était la plus jeune, présenta sa tête dans la pénombre formée par la raréfaction de lumière. Elle vit ma mère pâlir et l'oiseau, après avoir, pendant un éclair, relevé le cou par la dernière manifestation de son système nerveux, retomber entre ses doigts, inerte à jamais. Elle annonça la nouvelle à ses sœurs. Elles ne firent entendre le bruissement d'aucune plainte, d'aucun murmure. Le silence régnait dans l'atelier. L'on ne distinguait que le craquement saccadé des fragments de la cage qui, en vertu de l'élasticité du bois, reprenait en partie la position primordiale de leur construction. Les trois Marguerites ne laissaient écouler aucune larme. Et pour visage ne perdait point sa fraîcheur poétique. Non, elle restait seulement immobile. Elles se traînèrent jusqu'à l'intérieur du chenil et s'étendirent sur la paille, l'une à côté de l'autre. Pendant que la chienne, témoin passif de leurs manœuvres, les regardait faire avec étonnement. À plusieurs reprises, ma mère les appela. Elles ne rendirent le son d'aucune réponse. Fatiguée par les émotions précédentes, elle dormait, probablement. Elle fouilla tous les coins de la maison sans les apercevoir. Elle suivit la chienne qui la tirait par la robe vers le chenil. Cette femme s'abaissa et plaça sa tête à l'entrée. Le spectacle dont elle eut la possibilité d'être témoin, mises à part les exagérations malsaines de la peur maternelle, ne pouvait être que navrant, d'après les calculs de mon esprit. J'allumai une chandelle et la lui présentai. De cette manière, aucun détail ne lui échappa. Elle ramena sa tête, couverte de brins de paille, de la tombe prématurée, et me dit « Les trois marguerites sont mortes !» Comme nous ne pouvions les sortir de cet endroit, car, retenez bien ceci, elles étaient étroitement entrelacées ensemble, j'allais chercher dans l'atelier un marteau pour briser la demeure canine. Je me mis sur le champ à l'œuvre de démolition, et les passants purent croire, pour peu qu'ils eussent de l'imagination, que le travail ne chômait pas chez nous. Ma mère, impatientée de ces retards, qui cependant étaient indispensables, brisait ses ongles contre les planches. Enfin, l'opération de la délivrance négative se termina. Le chenil fendu s'entr'ouvrit de tous les côtés. Et nous retirâmes des décombres, l'une après l'autre, après les avoir séparés difficilement, les filles du charpentier. Ma mère quitta le pays. Je n'ai plus revu mon père. Quant à moi, on dit que je suis fou et j'implore la charité publique. Ce que je sais, c'est que le canari ne chante plus. L'auditeur approuve dans son intérieur ce nouvel exemple apporté à l'appui de ses dégoûtantes théories. Comme si, à cause d'un homme, jadis pris de vin, l'on était en droit d'accuser l'entière humanité. Telle est du moins la réflexion paradoxale qu'il cherche à introduire dans son esprit. Mais elle ne peut en chasser les enseignements importants de la grave expérience. Il console le fou avec une compassion feinte et essuie ses larmes avec son propre mouchoir. Il l'amène dans un restaurant et il mange à la même table. Ils s'en vont chez un tailleur de la fashion et le protégé est habillé comme un prince. Il frappe chez le concierge d'une grande maison de la rue Saint-Honoré et le fou est installé dans un riche appartement du troisième étage. Le bandit le force à accepter sa bourse et, prenant le vase de nuit au-dessous du lit, il le met sur la tête d'Agnon. « Je te couronne, roi des intelligences !» s'écrie-t-il avec une emphase préméditée. « À ton moindre appel, j'accourrai, puis à pleine main dans mes coffres de corps et d'armes, je t'appartiens. La nuit, tu rapporteras la couverture d'Albâtre à sa place ordinaire, avec la permission de t'en servir, mais le jour, dès que l'aurore illuminera les cités, remets-la sur ton front, comme le symbole de la puissance. Les trois marguerites revivront en moi, sans compter que je serai ta mère. » Alors le fou recula de quelques pas, comme s'il était la proie d'un insultant cauchemar. Les lignes du bonheur se plaignirent sur son visage, ridé par les chagrins. Il s'agenouilla, plein d'humiliation, aux pieds de son protecteur. La reconnaissance était entrée comme un poison dans le cœur du faux couronné. Il voulut parler et sa langue s'arrêta. Il pencha son corps en avant et il retomba sur le carreau. L'homme aux lèvres de bronze se retire. Quel était son but? Acquérir un ami à toute épreuve, assez naïf pour obéir au moindre de ses commandements. Il ne pouvait mieux rencontrer, et le hasard l'avait favorisé. Celui qui a trouvé couché sur le banc, on ne sait plus, depuis un événement de sa jeunesse, reconnaître le bien du mal. C'est Agron même qu'il lui faut. Le Tout-Puissant avait envoyé sur la terre un de ses archanges afin de sauver l'adolescent d'une mort certaine. Il sera forcé de descendre lui-même. Mais nous ne sommes point encore arrivés à cette partie de notre récit, et je me vois dans l'obligation de fermer ma bouche parce que je ne puis pas tout dire à la fois. Chaque truc a effet et paraîtra dans son lieu lorsque la trame de cette fiction n'y verra point d'inconvénient. Pour ne pas être reconnu, l'archange avait pris la forme d'un crabe tourteau, grand comme une vigogne. Il se tenait sur la pointe d'un écueil au milieu de la mer et attendait le favorable moment de la marée pour opérer sa descente sur le rivage. L'homme aux lèvres de jaspe, caché derrière une sinuosité de la plage, épiait l'animal, un bâton à la main. Qui aurait désiré lire dans la pensée de ces deux êtres? Le premier ne se cachait pas qu'il avait une mission difficile à accomplir. « Et comment réussir ? » s'écriait-il, pendant que les vagues grossissantes battaient son refuge temporaire, là où mon maître a vu plus d'une fois échouer sa force et son courage. Moi, je ne suis qu'une substance limitée, tandis que l'autre personne ne sait d'où il vient et quel est son but. À son nom, les armées célestes tremblent, et plus d'un raconte dans les régions que j'ai quittées que Satan lui-même, Satan, l'incarnation du mal, n'est pas si redoutable. Le second faisait les réflexions suivantes. Elles trouvèrent un écho jusque dans la coupole azurée de Kelsouillère. Il a l'air plein d'inexpérience. Je lui réglerai son compte avec promptitude. Il vient sans doute d'en haut, envoyé par celui qui craint tant de venir lui-même. Nous verrons à l'œuvre s'il est aussi impérieux qu'il en a l'air. Ce n'est pas un habitant de l'abricot terrestre. Il trahit son origine séraphique par ses yeux errants et indécis. Le crabe tourteau, qui depuis quelque temps promenait sa vue sur un espace délimité de la côte, aperçut notre héros. Celui-ci se releva alors de toute la hauteur de sa taille herculéenne et l'apostropha dans les termes qui vont suivre. N'essaie pas la lutte et rends-toi. Je suis envoyé par quelqu'un qui est supérieur à nous deux, afin de te charger de chaînes et mettre les deux membres complices de ta pensée dans l'impossibilité de remuer. Serrer des couteaux et des poignards entre les doigts. Il faut que désormais cela te soit défendu, crois-moi, aussi bien dans ton intérêt que dans celui des autres. Mort ou vive, je t'aurai. J'ai l'ordre de t'amener vivant. Ne me mets pas dans l'obligation de recourir au pouvoir qui m'a été prêté. Je me conduirai avec délicatesse. De ton côté, ne m'oppose aucune résistance. C'est ainsi que je reconnaîtrai, avec empressement et allégresse, que tu auras fait un premier pas vers le repentir. Quand notre héros entendit cette harangue empreinte d'un sel si profond, dément comique, il eut de la peine à conserver le sérieux sur la rudesse de ses traits hâlés. Mais enfin, chacun ne sera pas étonné si j'ajoute qu'il finit par éclater de rire. Oh, c'était plus fort que lui. On n'y mettait pas de la mauvaise humeur, attention, il voulait certes pas s'attirer les reproches du crabe tourteau. Et que d'efforts ne fit-il pas pour chasser l'hilarité? Que de fois ne serra-t-il point ses lèvres l'une contre l'autre afin de ne pas avoir l'air d'offenser son interlocuteur épaté? Malheureusement, son caractère participait de la nature de l'humanité, et il riait ainsi que font les brebis. Enfin, il s'arrêta. Il était temps, il avait failli s'étouffer. Le vent porta cette réponse à l'archange de l'écueil. Lorsque ton maître ne m'enverra plus des escargots et des écrevisses pour régler ses affaires, et qu'il daignera parlementer personnellement avec moi, on trouvera, j'en suis sûr, le moyen de s'arranger, puisque je suis inférieur à celui qui t'envoya, comme tu l'as dit, avec tant de justesse. Jusque-là, les idées de réconciliation m'apparaissent prématurées et aptes à produire seulement un chimérique résultat. Je suis très loin de méconnaître ce qu'il y a de sensé dans chacune de tes syllabes. Et comme nous pourrions fatiguer inutilement notre voix, afin de lui faire parcourir 3 kilomètres de distance, il me semble que tu agirais avec sagesse, et tu descendais de ta forteresse inexpugnable, et gagnais la terre ferme à la nage. Nous discuterons plus commodément les conditions d'une reddition qui, pour si légitime qu'elle soit, n'en est pas moins définitivement pour moi d'une perspective désagréable. L'archange, qui ne s'attendait pas à cette bonne volonté, sortit des profondeurs de la crevasse sa tête d'un cran et répondit « Ô mal d'aurore, est-il enfin arrivé le jour où tes abominables instincts verront s'éteindre le flambeau d'injustifiable orgueil qui les conduit à l'éternelle damnation. Ce sera donc moi qui le premier raconterai ce louable changement aux phalanges des chers humains, heureux de retrouver un des leurs. Tu sais toi-même, et tu n'as pas oublié, qu'une époque existait où tu avais la première place parmi nous. Ton nom volait de bouche en bouche. Et tu es actuellement le sujet de nos solitaires conversations. Viens donc, viens faire une paix durable avec ton ancien maître. Il te recevra comme un fils égaré et ne s'apercevra point de l'énorme quantité de culpabilité que tu as, comme une montagne de cornes d'élan élevée par des Indiens, amoncelée sur ton cœur. » Il dit, et il retire toutes les parties de son corps au fond de l'ouverture obscure. Il se montre radieux sur la surface de l'écueil. Ainsi un prêtre des religions, quand il a la certitude de ramener une brebis égarée, il va faire un bond sur l'eau pour se diriger à la nage vers le pardonné. Mais l'homme aux lèvres de saphir a calculé longtemps à l'avance un perfide coup. Son bâton est lancé avec force, et après main ricochet sur les vagues, il va frapper à la tête l'archange bienfaiteur. Le crabe, mortellement atteint, tombe dans l'eau. La marée porte sur le rivage les pas flottantes. Il attendait la marée pour opérer plus facilement sa descente. Eh bien, la marée est venue, elle l'a bercé de ses chants, et l'a mollement déposé sur la plage. Le crabe n'est-il pas content? Mais que lui faut-il de plus? Et Maldoror, penché sur le sable des grèves, reçoit dans ses bras deux amis inséparablement réunis par les hasards de la lame, le cadavre du crabe, Tourteau, et le bâton homicide. « Eh bien, je n'ai pas encore perdu mon adresse, s'écrie-t-il. Elle ne demande qu'à s'exercer. Mon bras conserve sa force et mon œil sa justesse. » Il regarde l'animal inanimé. Il craint qu'on ne lui demande compte du sang versé. Mais où cachera-t-il l'archange? Et en même temps, il se demande si la mort n'a pas été instantanée. Il a mis sur son dos une enclume et un cadavre. Il s'achemine vers une vaste pièce d'eau dont toutes les rives sont couvertes et comme murées par un inextricable fouillis de grands joncs. Il voulait d'abord prendre un marteau, mais c'est un instrument trop léger, tandis qu'avec un objet plus lourd, si le cadavre donne signe de vie, il le posera sur le sol et le mettra en poussière à coups d'enclume. Ce n'est pas la vigueur qui en manque à son bras, allez, c'est le moindre de ses embarras. Arrivé en vue du lac, il le voit peuplé de cygnes. Il se dit que c'est une retraite sûre pour lui. À l'aide d'une métamorphose, sans abandonner sa charge, il se mêle à la bande des autres oiseaux. Remarquez la main de la Providence, là où l'on était tenté de la trouver absente, et faites votre profit du miracle dont je vais vous parler. Noir comme l'aile d'un corbeau, 3 fois il nagea parmi le groupe des palmipèdes à la blancheur éclatante. 3 fois il conserva cette couleur distinctive qu'il assimilait à un bloc de charbon. C'est que Dieu, dans sa justice, ne permit point que son astuce pût tromper même une bande de cygnes. de telle manière qu'il resta ostensiblement dans l'intérieur du lac. Mais chacun se tint à l'écart, et aucun oiseau ne s'approcha de son plumage honteux pour lui tenir compagnie. Et alors, il circonscrivit ses plongeons dans une baie écartée, à l'extrémité de la pièce d'eau, seul parmi les habitants de l'air, comme il l'était parmi les hommes. C'est ainsi qu'il préludait à l'incroyable événement de la place Vendôme. Le corsaire aux cheveux d'or a reçu la réponse de Merwin. Il suit dans cette page singulière la trace des troubles intellectuels de celui qui l'écrivit, abandonné aux faibles forces de sa propre suggestion. Celui-ci aurait beaucoup mieux fait de consulter ses parents avant de répondre à l'amitié de l'inconnu. Aucun bénéfice ne résultera pour lui de se mêler comme principal acteur à cette équivoque intrigue. Mais enfin, il l'a voulu. À l'heure indiquée, Merwin, de la porte de sa maison, est allé droit devant lui en suivant le boulevard Sébastopol jusqu'à la fontaine Saint-Michel. Il prend le quai des Grands Augustins et traverse le quai Conti. Et au moment où il passe sur le quai Malaquais, il voit marcher sur le quai du Louvre, parallèlement à sa propre direction, un individu porteur d'un sac sous le bras et qui paraît l'examiner avec attention. Les vapeurs du matin se sont dissipées. Les deux passants débouchent en même temps de chaque côté du pont du Carrousel. Quoiqu'ils ne se fussent jamais vus, ils se reconnurent. Vrai, c'était touchant de voir ces deux êtres séparés par l'âge, rapprocher leurs âmes par la grandeur des sentiments. Du moins, c'eût été l'opinion de ceux qui se seraient arrêtés devant ce spectacle, que plus d'un, même avec un esprit mathématique, aurait trouvé émouvant. Merwin, le visage en pleurs, réfléchissait, qu'il rencontrait, pour ainsi dire à l'entrée de la vie, un soutien précieux dans les futures adversités. Oh, soyez persuadé que l'autre ne disait rien. Voici ce qu'il fit. Il déplia le sac qu'il portait, dégagea l'ouverture, et saisissant l'adolescent par la tête, il fit passer le corps entier dans l'enveloppe de toile. Il noua avec son mouchoir l'extrémité qui servait d'introduction. Comme Melvin poussait des cris aigus, il enleva le sac ainsi qu'un paquet de linge et en frappa plusieurs reprises le parapet du pont. Alors le patient, s'étant aperçu du craquement de ses os, se tut. Scène unique qu'aucun romancier ne retrouvera. Un boucher passait, assis sur la viande de sa charrette. Un individu court à lui, l'engage à s'arrêter et lui dit « Voici un chien enfermé dans ce sac, il a la gale, abattez-le au plus vite !» L'interpellé se montre complaisant. L'interrupteur, en s'éloignant, aperçoit une jeune fille en haillons qui lui tend la main. Mais jusqu'où va donc le comble de l'audace et de l'impiété? Il lui donne l'aumône. Dites-moi si vous voulez que je vous introduise quelques heures au plus tard à la porte d'un abattoir reculé. Le boucher est revenu et a dit à ses camarades, en jetant à terre un fardeau, « Allez, dépêchez-vous de tuer ce chat galeux !» Ils sont quatre et chacun saisit le marteau accoutumé. Cependant, ils hésitaient, parce que le sac remuait avec force. « Quelle émotion s'empare de moi ! » cria l'un d'eux en abaissant lentement son bras. « Ce chien pousse comme un enfant des gémissements de douleur !» dit un autre. « Mais on dirait qu'il comprend le sort qu'il attend !»« Oh, c'est leur habitude !» répondit un troisième. « Même quand ils ne sont pas malades, comme c'est le cas ici !» Il suffit que leur maître reste quelques jours absent du logis pour qu'ils se mettent à faire entendre des hurlements qui, véritablement, sont pénibles à supporter. « Arrêtez, arrêtez, arrêtez !» cria le quatrième avant que tous les bras se fussent levés en cadence pour frapper résolument cette fois sur le sac. « Arrêtez-vous, dis-je. Il y a ici un fait qui nous échappe. Qui vous dit que cette toile renferme un chien? Moi, je veux m'en assurer. » Alors, malgré les railleries de ses compagnons, il dénoua le paquet et retira l'un après l'autre les membres de Mervyn. Il était presque étouffé par la gêne de cette position. Il s'évanouit en revoyant la lumière. Quelques moments après, il donna des signes indubitables d'existence. Le sauveur dit « Apprenez une autre fois à mettre de la prudence jusque dans votre métier. Vous avez failli remarquer par vous-même qu'il ne sert à rien de pratiquer l'inobservance de cette loi. » Les bouchers s'enfuirent. Mervyn, le cœur serré et plein de pressentiments funestes, rentre chez soi et s'enferme dans sa chambre. Ai-je besoin d'insister sur cette strophe? Et qui en déplorera les événements consommés? Attendons la fin pour porter un jugement encore plus sévère. Le dénouement va se précipiter, et dans ces sortes de récits, où une passion, de quelque genre qu'elle soit, étant donnée, celle-ci ne craint aucun obstacle pour se frayer un passage, il n'y a pas lieu de délayer dans un godet la gomme laquée de 400 pages banales. Ce qui peut être dit dans une demi-douzaine de strophes, il faut le dire et puis se taire. Pour construire mécaniquement la cervelle d'un conte somnifère, il ne suffit pas de disséquer des bêtises et abrutir puissamment à doses renouvelées l'intelligence du lecteur de manière à rendre ses facultés paralytiques pour le reste de sa vie par la loi infaillible de la fatigue. Il faut en outre, avec du bon fluide magnétique, le mettre ingénieusement dans l'impossibilité somnambulique de se mouvoir, en le forçant à obscurcir ses yeux contre son naturel par la fixité des vôtres. Je veux dire, afin de ne pas me faire mieux comprendre, mais seulement pour développer ma pensée qui intéresse et agace en même temps par une harmonie des plus pénétrantes, que je ne crois pas qu'il soit nécessaire pour arriver au but que l'on se propose d'inventer une poésie tout à fait en dehors de la marche ordinaire de la nature, et dont le souffle pernicieux semble bouleverser même les vérités absolues, mais amener à un pareil résultat, conforme du reste aux règles de l'esthétique, si l'on y réfléchit bien, cela n'est pas aussi facile qu'on le pense. Voilà ce que je voulais dire. C'est pourquoi je ferai tous mes efforts pour y parvenir. Si la mort arrête la maigreur fantastique des deux bras longs de mes épaules, empouillés à l'écrasement lugubre de mon gypse littéraire, je veux au moins que le lecteur en deuil puisse se dire « Faut lui rendre justice, il m'a beaucoup crétinisé, que n'aurait-il pas fait s'il eût pu vivre davantage? C'est le meilleur professeur d'hypnotisme que je connaisse. » On gravera ces quelques mots touchants sur le marbre de ma tombe, et mes mânes seront satisfaits. Bon, je continue. Il y avait une queue de poisson qui remet au fond d'un trou, à côté d'une botte éculée. Il n'était pas naturel de se demander « Où est le poisson ? » Je ne vois que la queue qui remue. Car, puisque précisément l'on avouait implicitement ne pas apercevoir le poisson, c'est qu'en réalité il n'y était pas. La pluie avait laissé quelques gouttes d'eau au fond de cet entonnoir creusé dans le sable. Quant à la botte éculée, quelques-uns ont pensé depuis qu'elle provenait de quelque abandon volontaire. Le crabe tourteau, par la puissance divine, devait renaître de ses atomes résolus. Il retira du puits la queue de poisson et lui promit de la rattacher à son corps perdu si elle annonçait au Créateur l'impuissance de son mandataire à dominer les vagues en fureur de la mer maldororienne. Il lui prêta deux ailes d'albatros et la queue de poisson prit son essor. Mais elle s'envola vers la demeure du renégat pour lui raconter ce qui se passait et trahir le crabe tourteau. Celui-ci devina le projet de l'espion, et avant que le troisième jour fût parvenu à sa fin, Il perça la queue du poisson d'une flèche envenimée. Le gosier de l'espion poussa une faible exclamation qui rendit le dernier soupir avant de toucher la terre. Alors, une poutre séculaire, placée sur le comble d'un château, se releva de toute sa hauteur en bondissant sur elle-même et demanda vengeance à grands cris. Mais le Tout-Puissant, changé en rhinocéros, lui apprit que cette mort était méritée. La poutre s'apaisa, alla se placer au fond du manoir, reprit sa position horizontale et rappela les araignées effarouchées afin qu'elles continuassent, comme par le passé, à tisser leur toile à ses coins. L'homme aux lèvres de soufre apprit la faiblesse de son allié. C'est pourquoi il commande au couronné de brûler la poutre et de la réduire en cendres. Hagon, le fou, exécuta cet ordre sévère. « Puisque d'après vous, le moment est venu, s'écria-t-il, j'ai été reprendre l'anneau que j'avais enterré sous la pierre et je l'ai attaché à un des bouts du câble. Voici le paquet. » Et il présenta une corde épaisse, enroulée sur elle-même de 60 mètres de longueur. Son maître lui demanda ce que faisaient les 14 poignards. Il répondit qu'il restait fidèle et se donnait prêt à tout événement, si c'était nécessaire. Le forçat inclina sa tête en signe de satisfaction. Il montra de la surprise et même de l'inquiétude quand Hagon ajouta qu'il avait vu un coq fendre avec son bec un candélabre en deux, plonger tour à tour le regard dans chacune des parties, et s'écrier en battant des ailes d'un mouvement frénétique « Il n'y a pas si loin qu'on le pense depuis la rue de la Paix jusqu'à la place du Panthéon. Bientôt, on en verra la preuve lamentable. » Le crabe tourteau, monté sur un cheval fougueux, courait à toute bride vers la direction de l'écueil, le témoin du lancement du bâton par un bras tatoué, l'asile du premier jour de sa descente sur la terre. Une caravane de pèlerins était en marche pour visiter cet endroit désormais consacré par une mort auguste. Il espérait l'atteindre pour lui demander des secours pressants contre la trame qui se préparait et dont il avait eu connaissance. Vous verrez, quelques lignes plus loin, à l'aide de mon silence glacial, qu'il n'arriva pas à temps pour le raconter ce que lui avait rapporté un chiffonnier caché derrière l'échafaudage voisin d'une maison en construction, le jour où le pont du Carrousel, encore empreint de l'humide rosée de la nuit, aperçut avec horreur l'horizon de sa pensée s'élargir confusément en cercles concentriques à l'apparition matinale du rythmique pétrissage d'un sac isorcaèdre contre son parapet calcaire. Avant qu'ils stimulent leur compassion par le souvenir de cet épisode, ils feront bien de détruire en deux la semence de l'espoir. Pour rompre votre paresse, mettez en usage les ressources d'une bonne volonté. Marchez à côté de moi et ne perdez pas de vue ce fou, la tête surmontée d'un vase de nuit qui pousse devant lui la main armée d'un bâton, celui qui vous auriez de la peine à reconnaître si je ne prenais soin de vous avertir et de rappeler à votre oreille le mot qui se prononce « Mérovine ». Comme il est changé! Les mains liées derrière le dos, il marche devant lui comme s'il allait à l'échafaud, et cependant il n'est coupable d'aucun forfait. Ils sont arrivés dans l'enceinte circulaire de la place Vendôme. Sur l'entablement de la colonne massive, appuyée contre la balustrade carrée à plus de 50 mètres de hauteur du sol, un homme a lancé et déroulé un câble qui tombe jusqu'à terre, et quelques pas d'Hagon, avec de l'habitude, on fait vite une chose, mais n'employa pas beaucoup de temps. Mais je puis dire que celui-ci n'employa pas beaucoup de temps pour attacher les pieds de Mervyn à l'extrémité de la corde. Le rhinocéros avait appris ce qui allait arriver. Couvert de sueur, il apparut haletant au coin de la rue Castiglione, Il n'eut même pas la satisfaction d'entreprendre le combat. L'individu, qui examinait les alentours du haut de la colonne, arma son revolver, visa avec soin et pressa la détente. Le commodore, qui mendiait par les rues depuis le jour où il avait commencé ce qu'il croyait être la folie de son fils, et la mère, qu'on avait appelée la fille de neige à cause de son extrême pâleur, portèrent en avant leur poitrine pour protéger le rhinocéros. Inutile soin. La balle troua sa peau comme une vrille. L'on aurait pu croire, avec une apparence de logique, que la mort devait infailliblement apparaître. Mais nous savions que dans ce pachyderme s'était introduite la substance du Seigneur. Il se retira avec chagrin. S'il n'était pas bien prouvé qu'il ne fût trop bon pour une de ces créatures, je plaindrais l'homme de la colonne. Celui-ci, d'un coup sec de poignet, ramène à se voir la corde ainsi lestée. Placé hors de la monnaie normale, ses oscillations balancent Mervyn, dont la tête regarde le bas. Il saisit vivement avec ses mains une longue guirlande d'immortelles qui réunit deux angles consécutifs de la base, contre laquelle il cogne son front. Il emporte avec lui dans les airs ce qui n'était pas un point fixe. Après avoir amoncelé à ses pieds, sous forme d'ellipse superposée, une grande partie du câble, de manière que Mervyn reste suspendu à moitié hauteur de l'obélisque de bronze, le forçat évadé fait prendre de la main droite à l'adolescent un mouvement accéléré de rotation uniforme dans un plan parallèle à l'axe de la colonne et ramasse de la main gauche les enroulements serpentins du cordage qui giste à ses pieds. La fronde siffle dans l'espace, le corps de Mervyn la suit partout, toujours éloigné du centre par la force centrifuge, toujours gardant sa position mobile et équidistante dans une circonférence aérienne indépendante de la matière. Le sauvage civilisé lâche peu à peu, jusqu'à l'autre bout, qu'il retient avec un métacarpe ferme, ce qui ressemble à tort à une barre d'acier. Il se met à courir autour de la balustrade en se tenant à la rampe par une main. Cette manœuvre a pour effet de changer le plan primitif de la révolution du câble et d'augmenter sa force de tension déjà si considérable. Dorénavant, il tourne majestueusement dans un plan horizontal, après avoir successivement passé par une marche insensible à travers plusieurs plans obliques. L'angle droit, formé par la colonne et le fil végétal à ses côtés, est égaux. Les bras du renégat et l'instrument meurtrier sont confondus dans l'unité linéaire, comme les éléments atomistiques d'un rayon de lumière pénétrant dans la chambre noire. Les théorèmes de la mécanique me permettent de parler ainsi. Hélas, on sait qu'une force ajoutée à une autre force engendre une résultante composée de deux forces primitives. Qui oserait prétendre que le cordage linéaire ne se serait déjà rompu sans la vigueur de l'athlète, sans la bonne qualité du chanvre? Le corsaire aux yeux cheveux d'or, brusquement et en même temps, arrête sa vitesse acquise, ouvre la main et lâche le câble. Le contre-coup de cette opération, si contraire aux précédentes, fait craquer la balustrade dans ses joints. Mervyn, suivi de la corde, ressemble à une comète traînant après elle sa queue flamboyante. L'anneau de fer du nœud coulant, miroitant aux rayons du soleil, engage à compléter soi-même l'illusion. Et dans le parcours de sa parabole, le condamné à mort fend l'atmosphère jusqu'à la rive gauche, la dépasse en vertu de la force d'impulsion que je suppose infinie, et son corps va frapper le dôme du Panthéon, tandis que la corde étreint en partie de ses replis la paroi supérieure de l'immense coupole. Et c'est sur sa superficie sphérique et convexe, qui ne ressemble à une orange que pour la forme, qu'on voit, à toute heure du jour, un squelette desséché rester suspendu. Quand le vent le balance, le raconte que les étudiants du quartier latin, dans la crainte d'un pareil sort, font une courte prière. Ce sont des bruits insignifiants auxquels on est pourtant lieu de croire et propres seulement à faire peur aux petits-enfants. Il tient entre ses mains crispées comme un grand ruban de vieilles fleurs jaunes. Il faut tenir compte de la distance et nul ne peut affirmer, malgré l'attestation de sa bonne vue, que ce soit là réellement ces immortels dont je vous ai parlé et qu'une lutte inégale a engagé près du nouvel opéra puis détaché d'un piédestal grandiose. Il n'en est pas moins vrai que les draperies en forme de croissant de lune n'y reçoivent plus l'expression de leur symétrie définitive dans le nombre quaternaire. Mais allez y voir vous-même, si vous ne voulez pas me croire.